Ici, la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Washington Forum se penche cette semaine sur la mobilisation africaine contre Boko Haram, devenu plus dangereux que jamais.
Le groupe islamiste nigérian continue d'attaquer sur plusieurs fronts, ce qui a contraint le Tchad à voler au secours du Cameroun et intervenir militairement au Nigeria à l'heure où l'Union africaine appelle à une force régionale. Mais tous ces efforts aideront-ils à annihiler Boko Haram ? Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. En ce jeudi 5 février 2015, nos invités vont nous rejoindre dans quelques minutes pour nous décortiquer Boko Haram, deux mots qui ont fini par représenter la terreur dans toute une région d'Afrique. Après s'être emparé de territoires entiers dans le nord-est du Nigeria, le groupe menace les frontières du Niger, du Cameroun et du Tchad. D'où l'action collective anti-Boko Haram qui prend forme. Une réunion pour le déploiement d'une force africaine s'est ouverte ce jeudi à Yaoundé. Le compte-rendu de Michel Joseph.
Pour la première fois cette semaine, les troupes tchadiennes déployées mi-janvier au Cameroun ont pénétré en territoire nigérian. Les blindés et les soldats tchadiens ont franchi le pont séparant la ville camerounaise de Fotokol de la ville nigériane de Gamboru, après des bombardements aériens et d'artillerie et des échanges de tirs nourris avec les islamistes de Boko Haram. Une offensive diversement accueillie.
C'est le début de la concrétisation de ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire une mutualisation des efforts, des moyens en hommes et en matériel pour combattre un cancer politique qui concerne toute la sous-région du bassin du lac Tchad.
C'est une guerre asymétrique. Il faut que des troupes soient appropriées à ce genre de guerre. Or, l'armée tchadienne est aguerrie par rapport à son expérience au nord du Mali, par rapport à son expérience en République centrafricaine.
Le Nigeria, dont l'armée est très critiquée pour son inefficacité dans la lutte contre le groupe islamiste, a maintenu cette semaine que son intégrité territoriale restait intacte. Toutefois, pour les gouvernements des pays voisins, Boko Haram n'est ni un problème local, ni même purement régional. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Mohamed Bazoum.
La prise de la ville de Baga le 3 janvier dernier témoigne de la puissance de feu de la secte qui dispose de plus en plus de moyens considérables. L'objectif de Boko Haram, c'est le contrôle du bassin du lac Tchad, zone stratégique pour son approvisionnement extérieur en armes et vivre et sa sanctuarisation territoriale. Boko Haram ne donc peut plus être considéré comme un problème du Nigeria et à l'exemple des autres organisations terroristes comme ACMI et Daesh, dont elle est proche, elle constitue une menace pour la paix et la sécurité pour la région et même pour le monde.
Lors de son récent sommet à Addis Abeba, l'Union africaine a appelé à la création d'une force régionale de 7 500 hommes pour lutter contre Boko Haram grâce à un éventuel financement de l'ONU. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma.
La région a décidé comment elle veut combattre Boko Haram. Nous appuyons cette décision. Et si ces pays ont besoin d'une aide supplémentaire au-delà de la région, je suis sûre que l'Union africaine y réfléchira et agira en conséquence.
En 5 ans, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces armées ont fait plus de 13 000 morts, principalement dans le nord du Nigeria. Un pays qui est aussi appelé aux urnes le 14 février avec son président Goodluck Jonathan qui veut se faire réélire. D'où les interrogations sur le timing de l'aviation nigériane depuis lundi contre les camps des islamistes dans la forêt de Sambisa où le groupe terroriste avait emmené en avril près de 300 lycéennes enlevées à Chibok.
Merci bien, Michel. Comme promis, l'heure d'accueillir nos invités. Au Cameroun, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, qui nous rejoint de Yaoundé via Skype. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre.
Merci de me recevoir. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser aussi bien à vous qu'à vos téléspectateurs et aux autres panélistes.
Voilà, merci. Cap sur le nord du Nigeria pour retrouver à Zaria le docteur Houdou Abdoulaye Ayouba, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'université Amadou Bello. C'est dans l'état de Kaduna. À Washington, professeur Walid Fares, conseiller auprès du Congrès américain sur le Moyen-Orient, l'Afrique et le terrorisme. Et ma autre invitée, le correspondant de la VOA au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka, qui fait une série de reportages dans le nord du pays. Monsieur le ministre, je commence par vous. Je vais parler de cette importante réunion à Yaoundé dans un instant. Nous l'avons donc vu, les troupes tchadiennes, mais aussi camerounaises, sont passées à l'offensive cette semaine contre Boko Haram, qui n'a toutefois pas tardé à contre-attaquer. Quelle est la situation dans la ville camerounaise de Fotokol, où des gens ont été égorgés?
Merci de me donner cette opportunité. La situation qui prévaut actuellement, et d'ailleurs depuis hier, il y a un calme, mais une désolation, un désespoir de la part des populations qui ont subi une agression aussi injustifiée, inattendue que barbare de la part de cette secte anticivilisationnelle qu'on appelle Boko Haram. Je voudrais également dire en guise d'introduction à notre entretien qu'au grand jamais, Boko Haram n'a réussi à s'installer, à gagner un pan, un seul centimètre carré de notre territoire et puis de s'y installer. Il arrive malheureusement, parce qu'il nous livre une guerre asymétrique. C'est des gens qui surgissent de nulle part au moment où vous les attendez le moins. Il arrive malheureusement qu'ils pénètrent donc dans une partie ou une autre de notre territoire, soit pour piller les populations, pour semer la terreur, la violence. Mais aussitôt que nos forces de défense et de sécurité, aguerries, engagées, prêtes à lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang, sont au courant de leur présence quelque part, effectivement, nous organisons la riposte pour les évincer, pour leur porter l'estocade.
Voilà, la riposte, monsieur le ministre, si vous me permettez le calme à Fotokol. Alors, les interventions militaires camerouno-tchadiennes se poursuivent-elles sur le territoire nigérian? Sont-elles menées avec l'accord du Nigeria ou ce pays risque-t-il de reprocher au Tchad et au Cameroun de violer son intégrité territoriale?
Le Cameroun est toujours resté fidèle à ses principes. Les forces de défense et de sécurité du Cameroun ne franchissent jamais la frontière qui nous est commune avec le Nigeria jusqu'à nouvel ordre, parce que nous ne savons pas ce que les chefs d'État, après avoir donc mis à contribution la réflexion des experts aujourd'hui, puis la suite que l'Union africaine aura donnée, et ensuite la réaction du Conseil national de sécurité, aussi longtemps que de manière collective, l'autorisation ne sera pas donnée au Cameroun dans le cadre d'une démarche collective pour entrer dans le territoire du Nigeria, nous n'y entrerons pas. Donc, pour l'instant, nous nous battons pour la protection de nos frontières et nous nous limitons à nos frontières. Maintenant, s'agissant du Tchad, nous constatons avec beaucoup de plaisir que le Tchad dispose donc de la latitude pour entrer, pour pénétrer donc à l'intérieur du Nigeria et livrer bataille et porter l'estocade à l'ennemi.
Brièvement, pouvez-vous nous dire que faut-il attendre de cette rencontre de 3 jours à Yaoundé?
Non, c'est des experts commis par l'Union africaine. Ces experts doivent concevoir ou bien, oui, traduire concrètement dans les faits le concept de l'opérationnalisation, premièrement. Deuxièmement, étudier la logique, la logistique à mettre à la disposition de cette force multinationale mixte conçue par l'Union africaine. Et ensuite, les règles d'engagement de cette force. Dès lors que ces experts, qui sont africains, américains, européens de manière générale, mettent bout à bout leur savoir pour concevoir quelque chose de pratique, alors le travail donc de ces experts sera remis à l'Union africaine, qui va donc apprécier. Et une fois que toutes les conditions sont réunies, alors l'Union africaine va saisir le Conseil national de sécurité pour obtenir donc le mandat que ces forces donc agissent avec l'onction, avec la légitimité du Conseil de sécurité donc des Nations Unies, pour solliciter également que les moyens soient mis à la disposition de cette force et éventuellement les moyens militaires. Voici donc l'objectif.
Et évidemment que cela va malheureusement va prendre du temps, je m'excuse monsieur le ministre. Que savez-vous de ces raids aériens nigérians dans la région de Sambisa où dit-on Boko Haram avait transporté les filles de Chibok?
Écoutez, je viens d'écouter le ministre camerounais Issa Tchirouma Bakari, qui est mon ministre. Je veux dire, monsieur le ministre, qu'on ne peut pas parler de calme, on ne peut pas parler de sérénité quand il y a eu de morts. Hier, nuit, le ministre nous a dit qu'il y a eu 50 morts après l'attaque de Boko Haram. Et cet après-midi, le ministre camerounais de Défense nous a dit qu'il y a eu plus de 100 morts et qu'il y a eu aussi des centaines de blessés. Donc, on ne peut pas parler de calme. Et de deux, les forces camerounaises, les forces tchadiennes et les forces françaises, comme on a appris, sont en train de lutter contre Boko Haram dans les forêts de Sambisa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calme. Il y a beaucoup de blessés qui ne peuvent pas aller dans les hôpitaux. Donc le ministre ne peut pas nous parler de calme et de sérénité et de sécurité là-bas à protocole. On vient de lire dans les journaux ce soir, je donne l'exemple de Bois du Sahel, qui nous dit qu'il y a eu plus de 400 morts à protocole. Donc, ce que je vais dire, c'est que la réunion de sécurité d'aujourd'hui est bien fondée, ça vient au bon moment. Comme le président camerounais a dit, il a invité les autres chefs d'État africains d'aider le Cameroun, d'aider le Nigeria pour lutter contre Boko Haram. Et je vais ajouter aussi qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas au nord. Il y a les réfugiés, il y a les gens qui quittent le protocole. Les églises sont brûlées, les écoles sont brûlées, les mosquées sont aussi brûlées par ces sectes Boko Haram. Et beaucoup ne sont pas rentrés au Niger, à Bono State au Nigeria, parce qu'ils ont peur des forces tchadiennes qui sont allées à Gamburu au Nigeria. Donc il y a beaucoup de problèmes. On attend beaucoup sur les experts qui sont réunis à Yaoundé.
Oui, voilà. Boki, merci. Alors, j'ai deux autres invités qui m'attendent. Mais, monsieur le ministre, voilà des informations contradictoires. Notre correspondant chez vous nous dit que la situation n'est pas calme à Fotokol. Et donc, même...
Je suis désolé que ce compatriote relaie plutôt la rumeur. Je suis le porte-parole du gouvernement et je donne les faits. Le ministre de la Défense, le ministre délégué de la Défense, ce matin, après la réunion d'ouverture des travaux des experts, a annoncé effectivement 81 personnes. Je dis bien 81 personnes. Nous sommes en contact avec le gouverneur. Nous sommes en contact avec l'état-major. Il a cité l'œil du Sahel. En vertu de quoi ? Donne-t-il davantage de crédit à la déclaration d'un journaliste sur un journal par rapport à moi qui porte la nouvelle à toute la nation à partir du factuel? D'accord. Je suis désolé.
Alors,
je
il y a des informations contradictoires, malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin dedans. Il y a cette polémique, mais il y a beaucoup d'autres aspects qu'on doit aborder, malheureusement. Évidemment, vous êtes le représentant du gouvernement, alors vous voulez passer un message pour rassurer tout le monde. Maintenant, je vais m'adresser au professeur Ayouba. Comment vous, au Nigeria, vous réagissez à cette mobilisation régionale contre Boko Haram?
Oui, en effet, bon, c'est vrai, moi je suis pas le porte-parole du gouvernement, je parle en tant que enseignant de sciences politiques. Mm-hmm. Et bon, ici là, c'est vrai, on a eu les Nigériens ont été surpris d'entendre que le Tchad est rentré au Nigeria pour combattre Boko Haram, c'est vrai, bon, ça a été choquant, mais le chef d'état-major de l'armée a dit que c'était avec l'accord du Nigeria, et que le Nigeria était pour cette coopération régionale pour combattre le Boko Haram. Voyez, il y a 3 semaines de cela, il y a eu une réunion ici au Nigeria entre le Nigeria et le Cameroun. Mm-hmm. Le ministre camerounais de l'administration territoriale était ici avec les gouverneurs de la région nord du Cameroun et puis le gouverneur du Nigeria, là où se passent ces événements. Et puis, l'accord, en tout cas, on a passé en revue la situation de Boko Haram. Et en conclusion, on a vu que c'était, c'est vrai que ça a commencé comme une affaire locale. Et maintenant, c'est une affaire internationale qui doit être adressée par une action internationale. Donc, cette coopération entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria est très bien acceptée au Nigeria en ce moment.
Oui. Là, je vais m'adresser au professeur Fares. Vous avez entendu donc le professeur nous parler donc de cette situation, action internationale. Et vous avez entendu également tout à l'heure le ministre Bazoum du Niger comparer Boko Haram à Al-Qaïda et à l'État islamique. L'État islamique qui, pour la communauté internationale, a encore prouvé sa barbarie cette semaine en déclarant avoir brûlé vif un pilote jordanien. Boko Haram, autrefois proche d'Al-Qaïda, est-il aujourd'hui tenté par le djihad territorialisé mené par l'État islamique ?
En fait, Boko Haram a déjà déclaré qu'ils font partie du mouvement, peut-être pas de l'organisation, mais du mouvement djihadiste mondial auquel appartient Al-Qaïda, et idéologiquement bien sûr l'EI ou Daesh en arabe, qui sévit d'une façon très barbare en Syrie et en Irak. Le Boko Haram déjà a menacé pas seulement le gouvernement et le peuple nigérien, mais aussi les voisins, et y compris bien sûr le Tchad, le Cameroun. Il y a une stratégie que le Boko Haram essaye d'appliquer, la stratégie de pouvoir connecter avec le mouvement djihadiste en dehors du Nigeria. Donc tout à fait, quoique la réponse dans chaque pays est sous la souveraineté de leur gouvernement, il y a une responsabilité régionale que l'Union africaine est en train d'assumer, mais il y a derrière cela une responsabilité internationale que le gouvernement américain, que ce soit l'administration ou le Congrès, veut adhérer à cette responsabilité pour pouvoir appuyer les efforts locaux et régionaux.
Peut-être un mot très rapide, Moki, parce que je vous posais la question tout à l'heure, concernant ces raids nigérians dans la région de Sambisa. Est-ce qu'il y a des bombardements parce que, dit-on, c'est là que Boko Haram avait emmené les filles de Chibok.
Je ne sais pas si c'est là où Boko Haram a mené les filles de Chibok, parce que je n'ai pas vérifié cette information. Oui. Mais tout ce que je sais, c'est que les militaires du Niger et nigériens sont en train d'attaquer Sambisa Forest, qui est au nord du Cameroun, avec les militaires tchadiens depuis quelques jours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sympathisants de Boko Haram qui sont à Sambisa Forest. Il se dit ici aussi que c'est là où ils sont basés. Donc, ce n'est que normal. Mais le problème maintenant, c'est comment lutter contre cette Boko Haram à Sambisa Forest. Les militaires nigériens ne voulaient pas aller là-bas. Les militaires camerounais restent chez eux, disent qu'ils défendent le territoire. Est-ce qu'on ne peut pas faire un diagnostic d'un problème avant de résoudre ça? Est-ce qu'il faut rester sur place, attendre les militaires, les ennemis, pour lutter contre eux avant, alors qu'ils vont aller chez eux encore, revenir lutter? Donc je me dis, c'est nécessaire de faire une force panafricaine.
Voilà, Moki. Oui, absolument. Il y a beaucoup de questions, Moki. Il y a beaucoup d'interrogations. Alors, messieurs, je vous prie de rester avec nous. Les commentaires Facebook à venir dans quelques petits instants. Chers fidèles de la VOA, je vous retrouve après un condensé d'autres réactions sur l'offensive anti-Boko Haram.
Je ne peux qu'être réjoui face à cette initiative louable panafricaine de surcroît, qui permet de montrer aux yeux du monde que l'Afrique peut s'assurer sa propre sécurité. Je ne peux que te dire bravo au président Idriss Déby et au président Camerounais également, qui l'a compris qu'il était nécessaire, c'est une fois pour toutes, de réagir efficacement par l'offensive face à cette menace que représente Boko Haram.
Je suis très content et pour ce que ces soldats camerounais et tchadiens, n'est-ce pas, sont en train de faire, parce qu'il faut sans doute reconnaître que ça ne va franchement pas. Je crois qu'en combattant, n'est-ce pas, ces gens, il est fort probable que l'Afrique, n'est-ce pas, puisse reprendre, je ne sais pas, disons, des choses à même ou quoi.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum, à plein feu sur Boko Haram et l'offensive des pays de la région. Nos invités, le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakari, qui nous rejoint de Yaoundé, le professeur Houdou Abdoulaye Ayouba de l'université Amadou Bello dans le nord du Nigeria, professeur Walid Fares, conseiller auprès du Congrès américain et le correspondant de la VOA au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka. Avant de les retrouver, les réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Mahamad Hassan de Bizerte, Tunisie, un Tchadien en fait qui vit en Tunisie. Force régionale, très bonne idée, mais le Nigeria acceptera-t-il d'autres forces sur son territoire ? José-Antoine Casalon de Moule Guadeloupe, c'est uniquement la démocratie et l'abolition de nos frontières qui vont stopper les guerres et les violences en Afrique. Clifford Ilboudou de Ouagadougou, Burkina Faso, le Tchad est le seul pays en Afrique que je respecte actuellement. Et Abdou Soulé de Kumasa Tawa au Niger, comme c'est le président Mugabe qui dirige l'Union africaine, je suis optimiste que la mobilisation africaine contre Boko Haram réussira. Professeur Ayouba, comment Boko Haram arrive-t-il encore à recruter et à se financer ?
Oui, c'est vrai que à l'intérieur du Nigeria, le recrutement, je pense que c'est tous ces combattants de Boko Haram viennent du Nigeria et le recrutement de Boko Haram au Nigeria est un peu très facile vu la situation du Nigeria où on a, c'est vrai, à l'est, au nord-est du Nigeria, le problème de pauvreté, il y a beaucoup de jeunes sans emploi. Et puis, Boko Haram avait commencé au début à aider ces jeunes-là. Hein, parce que Boko Haram a commencé pacifiquement, religieusement, en aidant ces jeunes, les familles en difficulté, et puis petit à petit, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Bon, c'est vrai, bon, à cause de cette pauvreté-là, c'est très facile de recruter des jeunes qui ne font rien, qui sont là sans emploi, donc très facile de les recruter. C'est comme ça que ça a commencé, et puis
Oui, mais on parle de recrutement forcé également. Et Moki, Boko Haram recrute également dans l'extrême nord du Cameroun des jeunes entre 15 et 25 ans, d'après des témoignages chez vous. Alors, qui sont ces apprentis djihadistes? Comme peut-être le disait le professeur, sont-ils des jeunes désenchantés, sans emploi?
Oui, ils sont sans emploi et puis ils sont comme des talibans. C'est-à-dire, ce sont la plupart des étudiants de l'école coranique, quoi.
Absolument. En fait, je posais également la question à Moki, mais c'est pas un problème. En fait, il y a beaucoup de médias qui en font état. Monsieur le ministre, vous avez entendu cette question concernant le recrutement. Donc, je le disais, Boko Haram recrute également dans l'extrême nord du Cameroun. Alors, comment le gouvernement camerounais compte-t-il régler ce problème, monsieur le ministre?
Très bien, je vous remercie. Effectivement, la souffrance, la misère est un terreau propice au recrutement de tous les excentriques et les excentrés, c'est incontestable. Maintenant, comment le gouvernement fait? D'abord, J'adhère vraiment à l'analyse du professeur Tudor qui disait, ou le ministre nigérien qui disait que Boko Haram est une autre facette de l'international du terrorisme. En particulier, ce que la communauté internationale doit réaliser, c'est que, qu'il s'agisse de Daesh, de l'ISIS, de Boko Haram aujourd'hui, ou de toute autre organisation qui se prévaut d'être, comment dirais-je, une émanation divine. C'est des gens qui sont en train de vouloir reconfigurer, reformater l'humanité. C'est des gens qui sont en train de remettre en cause l'ordre sociétal tel qu'il existe aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ça échappe aux uns et aux autres. Quand des gens vous disent que la République, c'est mauvais, la Constitution, c'est mauvais...
Monsieur le ministre, malheureusement, le temps passe très vite, je m'excuse. Vraiment, très rapidement, je vous demandais s'il y a des jeunes, par exemple, dans le nord du Cameroun, des jeunes désenchantés, sans emploi, et qui se font recruter par Boko Haram très facilement. Donc, comment vous, le gouvernement camerounais, vous comptez régler ce problème?
D'abord, la conscientisation, la sensibilisation, tous les prédicateurs de l'islam, tous les imams de l'islam, tous les docteurs de l'islam, les exégètes de l'islam, ils ont la responsabilité d'éclairer, d'aller vers les jeunes, leur dire ce qu'est l'islam par rapport à cette doctrine qui nous tombe du ciel. Moi-même, je suis musulman.
Même temps, monsieur le ministre, faut-il que le gouvernement vienne avec des mesures, peut-être pour améliorer les conditions de vie dans cette partie du pays? Vous êtes d'accord?
Il existe donc. Il existe. Je
voudrais m'adresser maintenant au professeur Fares. Boko Haram pourra-t-il un jour finir par attaquer l'Occident, professeur Fares?
Oui, tout à fait, mais d'abord, bien sûr, l'argument que ce sont des sans-emploi, c'est pour ça qu'ils sont recrutés. Il y a des millions de sans-emploi, il y a des centaines de recrutés djihadistes. Quelle est la différence? La différence est qu'il y a une endoctrination, il y a un travail idéologique qui se fait sur les éléments faibles de la société. Donc la politique qui doit contrer cela doit être une politique de gouvernement d'abord, des gens religieux ensuite, mais surtout aussi une conscientisation du peuple, des ONG. Certainement, on a vu des cas de Nigériens et d'autres Africains qui ont combattu sur d'autres territoires de l'Afrique, mais aussi en Syrie, en Irak et au Yémen. Il y a eu ce jeune homme qui est venu du Nigeria, qui il y a quelques années, a essayé d'attaquer Detroit, ici aux États-Unis. Donc, cette affaire devient internationale. C'est pas seulement la responsabilité locale, c'est une responsabilité régionale. L'Union africaine y contribue maintenant, mais c'est aussi et surtout une responsabilité tout à fait internationale.
Voilà, et professeur, il y a beaucoup d'observateurs qui vous disent, voilà, que faire de ces autres groupes radicaux en Afrique, Al-Shabaab en Somalie, Al-Qaïda au Maghreb islamique et acolytes, toujours dans les parages. Et puis, il y a des gens qui vous disent, qui nous dit que si demain Boko Haram est éliminé, peut-être qu'un autre groupe va émerger pour le remplacer. Malheureusement, le temps passe très vite. Mille merci à nos invités. Le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, qui nous rejoint de Yaoundé, qui nous a rejoint de Yaoundé, le professeur Houdou Abdoulaye à Yuba de l'université Amadou Bello dans le nord du Nigeria, professeur Walid Fares, conseiller auprès du Congrès américain, et le correspondant de la VOA au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka. Avant de vous quitter, un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations. Nous attendons de voir ce jeudi soir qui, du Ghana ou de la Guinée équatoriale, rejoindra la Côte d'Ivoire en finale de la CAN 2015. La seconde demi-finale se joue en ce moment même, après la première mercredi, qui a vu la victoire des éléphants ivoiriens face aux léopards de la RD Congo. Voilà, c'est la grande fête du football africain et que le meilleur gagne. Mille merci, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.